Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat jusqu'à 19h sur France Culture ce soir. À l'ordre du jour ce soir, réforme des retraites, la peur du lendemain. Doute, incertitude, voire peur sont des termes utilisés depuis maintenant plusieurs semaines à propos de la future réforme des retraites. L'avenir serait-il si sombre que chacune et chacun d'entre nous se sentirait fragilisé à l'idée du flou pesant sur nos revenus futurs après la fin de notre vie active? Cette crainte est-elle reliée à celle d'un futur incertain pour notre planète par exemple et pour ses soubresauts environnementaux ou bien à l'histoire de notre propre pays et à celle de l'État-providence? Nous le verrons avec nos trois invités. Barbara Stiegler sera avec nous au téléphone. Elle est professeure de philosophie politique à l'université de Bordeaux-Montaigne. Elle est autrice de « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » aux éditions Gallimard. C'est sorti en début d'année. Michel Pigenet est également avec nous. Il est professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a dirigé une histoire des régimes spéciaux de retraite chez ESF en 2008. Et il était également interviewé par Nicolas Martin dans les Idées claires sur France Culture. Vous pouvez l'écouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et enfin, Pierre-Yves Joffard est avec nous. Il est économiste, professeur à l'école d'économie de Paris. Il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il est spécialiste d'économie de la santé.
Le président de la République a quand même, c'est le comble, réussi à faire peur à 30 millions d'actifs. Il y a 30 millions de personnes qui se disent aujourd'hui, notre vie est déjà difficile, mais en retraite, ça va être pire. Et après, il ne faut pas s'étonner que vous ayez les infirmières, les aides-soignantes, les enseignants qui disent « Attendez, c'est déjà pas simple aujourd'hui, on ne gagne pas des 1000 et des 100, ça va être pire demain ».
Voilà, c'était Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, ancien ministre du Travail, de la Santé et des Relations Sociales, qui était interviewé hier sur BFM TV. Bonsoir, Pierre-Yves Joffard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Bonsoir, Barbara Stiegler.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Michel Pigenet.
Bonsoir.
Alors, quand vous entendez un ancien ministre du Travail, de la Santé, des Relations Sociales qui a lui-même fait des réformes autour des retraites, c'était en 2008, je crois, eh bien, quand vous l'entendez dire que le gouvernement actuel fait peur à 30 millions d'actifs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est véritablement le terme qu'il faut utiliser, ce terme de peur?
Bon, je crois que par-delà la polémique, il y a incontestablement une conjonction de facteurs d'inquiétude, de crainte. S'agissant d'une question, la retraite, qui est aujourd'hui, c'est un fait de civilisation, partie prenante du cycle de vie. Mmh. Et sa remise en cause inquiète très certainement. Alors elle inquiète sur la base sans doute de précédents depuis 1982, tout ce qui a touché aux retraites a été vécu sous le mode d'un recul.
Oui, et puis souvent, on a annoncé, quand on était au gouvernement, à un moment ou à un autre, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, que ce serait bien la dernière réforme des retraites.
Voilà. Oui, alors effectivement. Alors, ce qui se passe, c'est que cette fois, la barre a été sans doute mise très haut. Au fond, fort de l'expérience de 95, où ce n'était d'ailleurs que les régimes spéciaux qui étaient essentiellement concernés, même s'il y avait d'autres aspects.
La réforme GP qui a poussé beaucoup de monde dans
les rues. Alors, elle avait des aspects aussi sur la sécurité sociale, mais voilà. Le gros, c'était quand même la réforme des régimes spéciaux. Là, cette fois, il semblait que l'expérience avait été comprise et qu'on irait par tronçons, un coup les fonctionnaires, un coup les régimes spéciaux. Cette fois, on dit les régimes spéciaux, mais l'ensemble du système des retraites, qui est un des piliers de la sécurité sociale et de l'État social.
Oui, Pierre-Yves Joffard, vous êtes spécialiste d'économie de la santé. Vous suivez évidemment toutes ces questions de très près. Vous allez d'ailleurs publier demain, dès ce soir, je crois, sur le site libération.fr, donc une tribune sur cette question, enfin votre chronique habituelle que vous tenez pour Libération sur l'économie et sur cette économie de la santé. Il est difficile de séparer cette question des retraites de la question de la sécurité sociale parce que la plupart des acteurs politiques le mêlent.
Oui, bah, il le met à juste titre. Hein. Les retraites, c'est une des branches de la sécurité sociale, au même titre que l'assurance maladie ou la branche famille. Et les deux sujets sont très très liés, puisque au bout du au fond, c'est quoi le droit à une retraite? C'est le droit à percevoir des revenus à un âge où on est moins capable de produire des richesses, où on est moins capable, où on a moins envie, simplement. Et donc, c'est très très lié aussi à l'état de santé. Et à la manière à la relation qu'on peut avoir avec le travail, qui elle dépend beaucoup de l'état de santé. Et là, on voit immédiatement que cet état de santé varie énormément. D'abord, il varie dans le temps, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui pas du tout dans le même état de santé à 60 ans ou à 70 ans qu'on ne l'était au même âge il y a 20 ou 30 ans. Hein. Ça, il y a une évolution très très importante. On est en bien meilleure santé aujourd'hui au même âge qu'il y a 20 ou 30 ans. On vit
et on l'attribue souvent d'ailleurs à la qualité de notre système de soins, de notre système de santé.
Entre autres, hein, c'est une des raisons. Il y a également les progrès de l'hygiène de vie, des modes de vie, de l'environnement, la qualité de l'air, de l'alimentation. On n'a jamais eu une alimentation aussi saine qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre ici ou là. Mais ça attire aussi l'attention sur le fait que selon le métier, selon la trajectoire professionnelle qu'on a pu avoir, on n'est pas du tout non plus dans le même état de santé à 60 ans. Si on a eu une vie, disons, moins éprouvante pour la santé que si on avait exercé un métier pénible, etc. Donc on voit que la santé est au cœur de ces discussions sur le droit à la retraite et sur ce que c'est qu'une retraite.
Et au cœur du social, comme on dit d'ailleurs, à propos de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, écoutons Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, qui explique pourquoi toucher aux retraites, c'est aussi sensible. C'est parce que, justement, il fait le lien avec la sécurité sociale.
Les retraites, c'est la mère de toutes les batailles, surtout en France, puisque la France a un modèle social qui est tout à fait particulier, singulier, qui s'est construit notamment sur une institution qui est la sécurité sociale, cette grande invention qui veut que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et les Français sentent bien que lorsqu'il est question des retraites, il est question de beaucoup de sujets en réalité, de la situation de l'emploi, de l'espérance de vie. Et les gens veulent savoir, après une vie de labeur, à quelle sauce ils vont être mangés, c'est-à-dire à quel âge vont-ils partir à la retraite, avec quelle somme. Ce sont des questions fondamentales.
Alors ça, c'était Adrien Quatennens, hier sur LCI. Vous êtes avec nous au téléphone, Barbara Stiegler. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université de Bordeaux-Montaigne, mais que vous avez également publié en début d'année « Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique » et que vous faites le lien justement entre ce livre qui revient sur l'histoire de cette adaptation et ce néolibéralisme qui court depuis les États-Unis des années 20 et 30 jusqu'à aujourd'hui. Et cette question de la retraite, Barbara Stiegler.
Alors, dans le texte que j'ai publié, je vous remercie beaucoup de votre invitation, mais dans le texte que j'ai publié, le livre, il faut s'adapter, il n'est pas question explicitement de la retraite.
Bien sûr.
Je suis sûre que le terme y soit. Donc, en un sens, on pourrait se demander quelle est ma légitimité ce soir pour vous parler au téléphone de ce sujet. Je n'ai pas plus de légitimité quelque part que n'importe quel citoyen préoccupé par cette question. Mais si j'ai quand même accepté votre invitation, c'est qu'effectivement, en fait, c'est une question qui est à l'arrière-plan de mon livre. La question qui est à l'arrière-plan de mon livre, c'est la question du rapport au temps. Du rapport au temps qui s'impose sous la pression la conception néolibérale de la politique et de la société. Et c'est la domination d'un rapport au temps où finalement un seul rythme est en train de s'imposer, doit s'imposer à nos sociétés, qui est un rythme, celui de la compétition mondiale, dans lequel les rythmes doivent nécessairement et de manière exponentielle s'accélérer et dans lequel le temps doit être sans cesse un temps d'optimisation. Et ce que je crois, c'est que cette conception du temps, qui est extrêmement puissante, il est difficile d'y résister, hein, puisque quand on voit le temps passer, on a envie d'optimiser son temps, y compris même des fois quand on est en vacances. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien
sûr.
Même
quand on est dans des temps de repos.
Alors que le temps de vacances, c'est justement un temps où on devrait profiter de l'otium, voilà, tel que disaient les Latins.
Voilà, enfin de la jachère ou d'un temps qui part dans tous les sens. Mais nous sommes tous pris dans ce temps-là, moi la première, hein, dans cette pression de l'optimisation. Et dans une société qui va dans ce sens-là, l'idée même d'une retraite, au sens le plus général du mot, et je ne veux pas dissoudre la question qui nous occupe ce soir, mais je veux juste qu'on entende l'ampleur philosophique de la question. L'idée même d'une retraite pose problème, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse se retirer du temps empressés des affaires, de l'optimisation, de la pression du travail productif. L'idée qu'on puisse se retirer pour plein de raisons, soit pour des raisons qui relèvent de la spiritualité, puisque évidemment dans la retraite il y a le sens religieux, mais c'est pas ça qui nous occupe du tout aujourd'hui. Soit pour l'étude, soit pour prendre soin de soi parce qu'on est malade, parce qu'on est fragile, soit tout simplement parce qu'à la fin d'une vie de labeur, on estime qu'on a aussi une autre vie à vivre, alors même qu'on n'est pas malade, hein, mais qu'on veut vivre un autre rythme. Comme disait l'un de vos invités, on n'a pas forcément envie de continuer à travailler sur ce rythme-là. Eh bien, cette possibilité même de se retirer, elle est aujourd'hui attaquée de toutes parts. Et je fais le lien entre l'attaque que subit depuis de nombreuses réformes, l'idée même d'une retraite en bonne santé, et tous les métiers dans lesquels nous nous retirons pour l'étude, pour le soin. Car en réalité, il faut voir dans la mobilisation qui se passe aujourd'hui un lien entre ceux qui se mobilisent pour le droit à la retraite et ceux qui se mobilisent pour le droit à éduquer dans de bonnes conditions, pour le droit à soigner dans des rythmes supportables, etc., etc. Je crois qu'il faut vraiment inscrire la question des retraites et la colère qui s'exprime aujourd'hui autour de cette question dans la question plus générale de la possibilité de vivre à d'autres rythmes sociaux, et en particulier pour ce qui est du soin, de l'éducation, de la santé.
C'est ce que vous expliquez dans un texte que vous publiez ce soir d'ailleurs sur le site AOC,
Je pense qu'il paraîtra plutôt demain.
Demain, voilà. Donc,
il paraîtra ce soir, voilà.
Qui s'intitule « Pour le néolibéralisme, la retraite est un archaïsme inadapté », et vous expliquez que cette question de la retraite, c'est l'expérience d'un autre temps et d'un autre rythme que celui du travail productif, Michel Pigenet.
Oui. Rapport au temps, rapport au travail aussi. Parce que cette idée de la retraite couperet où les gens d'un coup deviennent inactifs, c'est une vision, mon collègue est plus compétent pour en parler, mais c'est une vision économique, mais qui me paraît réductrice. Comme si les retraités qui aujourd'hui disposent en effet de plus de temps pour vivre en bonne santé, comme s'ils restaient rivés alors sur leur canapé à regarder la télévision ou aller à la pêche.
Du Téléthon, on sort des Restos du Cœur, etc. Et on sait très bien la place que tiennent, par exemple, dans le bénévolat en France, tous ces retraités et toutes ces retraitées qui donnent de leur temps pour pouvoir justement faire des tâches qui servent la collectivité et le bien commun.
Et quelque chose qui n'est pas comptabilisé. Et qui mériterait de l'être. Alors, je ne sais pas comment ces calculs ont été faits, mais on me dit que ça a été évalué aux alentours de 8% du PIB, ce qui rapportait aux 14% du coût dit des retraites, finalement réduirait le coût de retraite à moins que ce que l'on dit habituellement. Mais encore sur ces 8%, je ne me prononce pas, mais le fait
que
qu'il y a
ne se prononce pas non plus,
donc,
d'ailleurs,
une activité, il y a quelque chose qui se fait et qui n'est pas une retraite au sens où on couperait toute vie sociale et toute utilité à la société.
Oui, sur ce point, Barbara Stiegler, vous expliquez, vous rappelez effectivement dans votre texte pour AOC, bien que dans le supplément finance de l'encyclopédie, on définit en finance, faire sa retraite, c'est se retirer des affaires pour vivre paisible et dégagé de tous les soins qu'elles entraînent. Et évidemment, vous rappelez aussi que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'otium des Latins, des Romains, qui était lié évidemment à la question d'avoir des esclaves pour pouvoir faire le travail à votre place. Donc c'est pour ça qu'on faisait le négoce d'un côté et l'otium de l'autre, le négocium d'un côté. Et néanmoins, vous nous dites combien cette question du temps est mise de côté par nos dirigeants, alors qu'au bout du compte, elle est essentielle dans le néolibéralisme qui est au cœur de votre travail.
Oui, effectivement. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a une vision de la temporalité et même de l'évolution de la vie. Ce que j'explique dans le livre, de l'évolution du vivant, une espèce de darwinisme complètement dévoyé, d'ailleurs, dans le néolibéralisme. L'idée est que l'évolution de nos sociétés va dans un sens, et ce sens, c'est celui d'une accélération des rythmes, d'une optimisation des rendements, dans une compétition mondialisée, avec des règles qu'il faut absolument poser pour que la compétition soit loyale, juste et qu'il y ait des arbitres qui veillent à ce que ce soit les meilleurs qui gagnent. Et du même coup, d'ailleurs, les inégalités qui se dégageront dans ce temps de la compétition seront des inégalités légitimes, puisque quand les règles sont transparentes et qu'on les connaît tous, finalement, on est dans quelque chose de parfaitement universel où on n'a qu'à connaître les règles, être formé pour avoir les compétences nécessaires et on joue tous le même grand jeu. Dans cette conception du temps et de l'histoire, toute autre forme de rythme, toute autre forme d'activité, toute autre forme de travail, d'ailleurs, effectivement, il est très juste de rappeler qu'énormément de retraités travaillent et, par exemple, font un travail politique indispensable puisqu'ils administrent, par exemple, en très grande majorité, les mairies des petites communes. Mmh. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on rappelle souvent. Il y a bien sûr l'investissement associatif, ça a été dit à l'instant. Il y a énormément d'activités parce qu'en fait, il y a toutes sortes d'activités humaines qui n'entrent pas dans le grand jeu et dans la temporalité très orientée et très comptabilisée de la compétition mondiale. Et je crois que ce que le néolibéralisme nous dit, et qui est encore une fois un discours auquel il est difficile de résister, en tout cas qui a un impact très fort sur les esprits, c'est que la compétition mondiale est tellement forte que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps dans cette compétition. Et que par conséquent, tous les rythmes ralentis ou différents ou divergents ou déviants ou qu'on ne peut pas comptabiliser, qu'on ne peut pas coter, les soignants, les hospitaliers savent ça par cœur, hein. Tous ces rythmes qui ne sont pas soumis à cette logique sont partout traqués et il s'agit absolument de les éliminer pour que tout le monde entre dans une compétition, hein. Il s'agit de faire gagner l'équipe de sa région, l'équipe France, peu importe, mais il s'agit absolument d'entrer dans ce jeu de la compétition. Et c'est pourquoi je soutiens, excusez-moi, juste je finis le propos, c'est pourquoi je soutiens dans mon texte cette thèse un peu radicale et qui peut surprendre, que je pense que pour le néolibéralisme, l'idée même d'une retraite, de se retirer du rythme que je décris pour inventer d'autres rythmes et faire autrement, l'idée même de retraite est illégitime. Et le projet est de rendre cette retraite petit à petit, finalement de réduire cette retraite à une espèce de pension pour les invalides et de favoriser du coup un autre mode de financement de sa fin de vie par capitalisation, ce qui nous permet de rejouer le grand jeu de la compétition mondiale, hein, qu'il s'agissait précisément de restaurer.
Vous citez
l'état social permet aussi de réinstaurer le rythme de la compétition mondiale jusque dans la retraite, c'est-à-dire qu'il y a quand même une corrélation à penser entre le projet actuel de la retraite à points, hein, qui fonctionne un peu comme un jeu vidéo où il s'agit de gagner des points de vie en permanence dans sa vie pour jouer cette partie qui est très...
Même si cette retraite à points aujourd'hui n'est pas la retraite à points dont on parlait il y a encore une dizaine d'années, quand on parlait de retraite à points, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on dit qu'on maintiendra justement un système par répartition avec ce système de points. On pourra en discuter dans un instant.
Absolument. Mais l'idée vraiment générale, c'est que c'est juste, puisque comme quand vous jouez à un sport collectif, vous connaissez les règles, c'est juste. Et après, à chacun, que le meilleur gagne. Hein, c'est vraiment l'idée générale. C'est un discours sur la justice, c'est un discours sur l'égalité des chances, mais qui conduit à légitimer des inégalités entre les joueurs quand ils ne sont pas à la hauteur du jeu. Et juste, je voulais insister sur quelque chose qui a été souligné par les commentateurs, à savoir qu'il y a quand même une corrélation avec le fait que dans la loi Pacte, on encourage évidemment la retraite par fonds de pension. Hein, voilà.
Alors, sur ces points, Pierre-Yves Jaffard, en particulier cette question d'inégalité et du temps, puisque vous y insistez en précisant dans l'article que vous publierez dans Libération dans un instant, vous y précisez effectivement que cette question touche nos vies, puisqu'il y a des gens qui vivent plus longtemps que d'autres, et en particulier ceux qui sont les plus riches, les 5% des plus riches, vivent 6 ans, je crois, ou 7 ans plus vieux que les 5% les plus pauvres dans un pays comme le nôtre, et que donc, effectivement, le temps et l'inégalité vont ensemble sur ce point-là.
Pour les hommes, en effet. Mais je voudrais revenir juste sur le point, justement sur cette question de point. Il faut quand même rappeler qu'en France, il y a une part importante des retraites, qui sont les retraites complémentaires, qui sont gérées par les partenaires sociaux, et qui est un régime à point, qui est un régime par point, entièrement par répartition. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention, ne pas mélanger un régime par points n'est pas un régime par capitalisation. Le modèle qui a inspiré la réforme, même si après les modèles qui inspirent sont pas forcément les modèles qu'on retrouve dans la version finale, mais le modèle qui a inspiré la réforme en cours, c'est le modèle suédois. Le modèle suédois qui est un régime par répartition et qui est un régime par points. Et en France, un tel régime existe depuis des années, c'est le régime des retraites complémentaires. Alors, pour revenir à la question de combien de temps, en fait, les questions que chacun se pose, c'est combien de temps je vais pouvoir espérer vivre sans avoir besoin de gagner ma vie, sans avoir besoin de travailler pour gagner ma vie.
Donc, cette incertitude, cette peur du lendemain.
Et là, cette peur du lendemain, elle est tout à fait légitime. Elle est, alors, il y a d'autres éléments qui peuvent entraîner des craintes quand on pense au lendemain. Hein, c'est le risque de dépendance, le risque de perte d'autonomie qui est très présent dans l'esprit de beaucoup de monde, à juste titre, qui est un vrai risque et qui est très mal pris en charge par la sécurité sociale. Mais en ce qui concerne les inégalités sont fortes vis-à-vis de l'espérance de vie et vis-à-vis justement de la mortalité. Si on regarde dans les 5% les plus riches, un homme à 65 ans a une espérance de vie de 22 ans. C'est-à-dire qu'il lui reste en moyenne 22 ans à vivre s'il est dans les 5% les plus riches. Pour qu'on retrouve une espérance de vie de 22 ans dans les 5% les plus pauvres, il faut descendre à 55 ans. C'est-à-dire que un homme pauvre de 55 ans a la même espérance de vie qu'un homme riche de 65 ans. L'inégalité est très très profonde à ce niveau-là.
Ce qui vous permet de dire que dans le système actuel, tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, les riches sont subventionnés par les pauvres.
Ah ben c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les régimes complémentaires, lorsque le régime complémentaire des cadres était structurellement déficitaire et était financé par les excédents du régime non cadre. Et ça on l'a vu. Et justement, c'est pour revenir à un point qui, à mon avis, est vraiment important sur les réformes en cours, c'est-à-dire qu'un régime par points est beaucoup plus lisible et fait apparaître, met en lumière des inégalités, notamment ces inégalités-là, beaucoup plus que ne le fait le régime actuel. Ces inégalités sont présentes dans le régime actuel, le basculement vers un régime à points les met en lumière, et c'est ça qui est très difficile à accepter et à gérer.
Tiens, c'est le fond de la bouteille. Ça y est, nous voilà vieux, ma vieille. Des vrais vieux qui trient les lentilles, des vieux de la tête aux béquilles. Tiens, voilà le bout de la rue, on souffle comme qui l'aurait cru, du temps qu'on vivait à grands pas, du temps qu'on leur en voulait pas, aux étoiles de disparaître. La retraite. T'as beau dire qu'on nous rend le cœur une fois vidé du meilleur, qu'ils ont pris le tronc et la force, qu'ils ne rapportent que l'écorce. N'empêche, c'est déjà moins con que soit consigné le flacon, qu'après le festin on nous laisse les arêtes de la vieillesse, le temps de finir la cigarette.
France Culture,
la retraite,
le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et tous les amateurs de France Inter ont reconnu la voix de Jean-Louis Foulquier pour cette chanson qu'il avait écrite et qui s'intitule « La retraite ». Michel Pigenet, vous vouliez réagir à ce que disait juste avant cet extrait, donc puisqu'il est 18h44 sur France Culture et que vous écoutez le temps du débat, vous vouliez réagir à ce que disaient à la fois Barbara Stiegler et Pierre-Yves Geoffard qui vous précédaient.
Oui, alors, sur les raisons de la retraite à points, je ne suis pas sûr qu'elle soit seulement là pour faire apparaître les inégalités qui existaient dans le système actuel. Je crois que Fillon a un peu vendu la mèche.
C'est vrai que sa vidéo tourne devant les patrons. C'était une vidéo il y a quelques années qui tourne beaucoup en disant ça permettra à tous les gouvernements, on le sait, de baisser la valeur du point et ainsi de faire des économies sur les retraites.
Mais je crois quand même que fondamentalement, la réforme qui est engagée là, elle est là, dans le meilleur des cas, pour stabiliser les dépenses de retraite. Et il y a la règle d'or, je ne sais pas comment l'appeler, des 14% de PIB, alors que s'annonce une augmentation de la population âgée. Donc si les choses mathématiquement, très simplement, sont justes, ça veut dire que s'il n'y a plus de personnes âgées, avec la même part, il faudra qu'il y en ait un peu moins pour chacun. Et l'application suédoise de ce système a bien montré qu'elle avait, qu'elle aboutissait à ça. Donc, je crois que le chamboule tout actuel permet de faire plusieurs choses. D'une, de liquider les régimes spéciaux, évidemment, mais plus fondamentalement, de remettre à niveau et à niveau stationnaire les dépenses de retraite, alors qu'on sait qu'on va dans une avec une population qui démographiquement va être âgée plus qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Barbara Stiegler, il y a tout de même quelque chose qui fait qu'il y a dans l'air du temps, dans l'ambiance, pourrait-on dire, pas simplement cette question des retraites et de la peur du lendemain qui lui est liée, mais également ce que l'on dit sur la planète, sur l'état de la planète, et vous ne pouvez pas vous en empêcher dans l'article qui est déjà publié, on a vérifié avec l'équipe du Tour du Débat, elle est déjà publiée sur le site d'AOC, l'article que vous avez publié, votre tribune, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de faire la relation avec justement cette question de l'épuisement de nos ressources vitales et de notre planète.
Oui, merci de faire le lien, effectivement. Juste avant de vous répondre sur cette question, je précise ce que je disais tout à l'heure. Je ne disais pas du tout, je ne confondais évidemment pas la retraite par points et la retraite par capitalisation. Mmh. Je disais absolument l'inverse. Je disais que l'idée est de faire de la retraite par répartition, qui était fondée sur la solidarité, l'état social, etc., tout le monde connaît cette histoire, quelque chose qui fonctionnerait par le point. En soi, le point, je n'ai rien contre. Effectivement, il y a des systèmes qui peuvent être des systèmes à points, le permis à points, ce que vous voulez. Il y a effectivement les retraites complémentaires par points qui sont gérées par les partenaires sociaux, bien paraît-il, depuis longtemps. C'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la symbolique. La symbolique, c'est très important. Et l'utopie ou l'idéal politique qui est promu est très important. Et l'idée générale, c'est que quand vous héritez des conflits de l'histoire, des conflits sociaux de l'histoire, de ces régimes spéciaux qui ont été conquis de haute lutte, légitimement ou pas, pour des métiers difficiles, etc. Vous êtes dans une logique d'héritage qui est inique, c'est la logique de l'historicité et de la conflictualité. Et donc, le discours du néolibéralisme, c'est de dire, nous, on vous propose un jeu, que d'ailleurs on vous propose pas parce que c'est une question de survie, on vous propose de jouer un jeu qui est vital, qui est le jeu de la compétition mondiale, dans lequel il faut que toutes les règles soient transparentes. Et donc, voilà, le discours du point, c'est ça. C'est pour ça que c'est sans cesse remis en valeur. C'est comme dans un jeu vidéo, si vous voulez, tous les joueurs sont à égalité devant la manière dont les points sont gagnés. Et du même coup, quand vous n'avez pas gagné assez de points, écoutez, c'est à vous de vous en prendre, après tout. C'est pas à la société. C'est vous qui n'avez pas les bonnes compétences. Voilà. Donc, ce que tout le monde dit, tous les gens qui connaissent bien les retraites disent, c'est que quand on est dans une logique de retraite par points, toute cette faculté d'oubli qu'il y avait dans le système actuel, où on prenait les meilleures années, etc., est laminée par un jeu où dès le départ, dès vos premiers moments de vie, en fait, vous capitalisez des points ou vous ne les capitalisez pas. Ensuite, il y a, une fois que cette retraite par répartition, et je suis parfaitement d'accord avec Michel Pigenet, une fois que cette retraite par point conduit à la paupérisation, comme on l'a vu en Suède, eh bien, à ce moment-là, prend nécessairement le relais, mais nous avons déjà des magazines qui font de la publicité pour cela partout sur nos murs, les murs de nos villes, prend immédiatement et naturellement le relais la logique de la retraite par capitalisation, c'est-à-dire par le fait que vous devenez un actionnaire du capital pour compléter une retraite qui de toute façon sera radicalement insuffisante. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, très bien. Pierre-Yves Geoffard, tout de même, cette question n'était pas gagné d'avance. Il n'était pas gagné que aujourd'hui, eh bien, des centaines de milliers de Français descendraient dans les rues. C'était jeudi dernier et peut-être encore demain pour justement réclamer l'arrêt de cette réforme. Par exemple, ça n'était pas évident. On pouvait penser qu'effectivement un discours, disons raisonnable, qui était celui du gouvernement, finirait par dire, ben tout compte fait, c'est plus égalitaire. Vous allez y gagner d'une certaine façon. Ce discours du gagnant perdant que l'on entend aujourd'hui, qui est un discours très très présent dans et qui rompt avec un discours plus ancien qui était celui par exemple de Ségolène Royal lorsqu'elle se présentait à la présidence de la République en disant il faut des réformes pour que chacun soit gagnant, c'était le win-win dont on s'est beaucoup moqué à cette époque-là. Est-ce que c'est justement le retour de cette compétition dont parle Barbara Stiegler à l'instant même, Pierre-Yves Geoffard?
Non, faut pas le. Non, d'abord, il faut dire une chose, c'est que le gouvernement et les annonces gouvernementales,
on les a pas.
Ont été. Ouais, alors on les a pas. On a quelques éléments, les grandes lignes ont été annoncées, les grands principes. Mais comme on le sait, dans ce genre de réforme, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'enfer est dans les détails. Hein. Et donc, comme c'est annoncé depuis un moment, on n'a toujours pas les détails. Bah, au bout d'un moment, les gens finissent par s'interroger, à juste titre. La méthode suivie n'est pas forcément de nature à rassurer. Ce qui rajoute une couche de confusion, c'est quand cette réforme qui a toujours été annoncée comme une réforme de structure et non pas comme une réforme de financement, quand se glisse dans la communication et dans les réflexions et dans les déclarations de certains membres du gouvernement des éléments qui laissent croire que ce sont les deux. Et là, on voit que, ben forcément, si on fait une réforme à budget constant, il y a des perdants et des gagnants. Oui, il y a des perdants et des gagnants, même si, au bout du compte, il peut y avoir davantage de gagnants que de perdants. À court terme, il peut y avoir plus de perdants. Et chacun, comme il y a une forte incertitude, personne ne sait aujourd'hui quelle sera sa situation dans le régime futur. C'est redoublé d'une incertitude supplémentaire, c'est que personne ne sait quelle est sa situation dans le régime actuel.
Oui, c'est pour ça que certains, comme Xavier Bertrand, demandaient...
Quand on ne connaît ni le point de départ, ni le point d'arrivée, il ne faut pas étonner qu'on soit un peu inquiet.
Oui, Michel Puisenet, vous qui avez suivi en tant qu'historien toute cette histoire de l'histoire des retraites, mais aussi des régimes spéciaux, ça vous a étonné ce qui se passe maintenant? Ou au contraire, vous disiez que toutes les mèches étaient allumées pour que, eh bien, on parvienne à cette journée du 5 et à cette grève très importante, en tous les cas dans le domaine des transports que l'on connaît cette
année-ci? Alors, moi j'étais de ceux, et je maintiens cette position, qui disait que 2019 n'est pas 1995. Entre autres parce que 95, Chirac prend à contre-pied les gens qui l'ont élu sur la fracture sociale. La réforme des retraites était dans le programme de Macron, bon, même si c'est pas ça sans doute qu'il l'a fait élire en 2017. Mais donc il fallait pas s'en étonner. Ce qui se passe, c'est que je reviens pas sur ce que j'ai dit là, il s'attaque à l'ensemble du système. Mais surtout, il le fait en 2019, c'est-à-dire après la moitié du septennat et après la crise sociale, même si elle est à effet politique sans doute à moyen terme, mais la crise sociale des Gilets jaunes.
Bien sûr.
Et donc, il engage la chose déjà en ayant perdu quelques plumes. Et alors que le mécontentement, sinon la colère, n'est pas retombée sociale. Donc voilà, les conditions, pour le moins, étaient hasardeuses.
Oui, et vous dites dans votre texte, Barbara Stiegler, paru sur le site AOC, vous dites que, eh bien, aujourd'hui, c'est la résistance qui est en ligne de bataille depuis quelque temps, résistance face à cet ordre que vous appelez néolibéral, et vous appelez à une sorte de courage nouveau pour affirmer une autre vision des rythmes de la vie, du sens de l'évolution et de l'avenir de notre vie sur Terre.
Oui, merci de me reposer la question sur le lien avec la crise écologique, parce que je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut cesser de décomposer les problèmes en les juxtaposant les uns à côté des autres, le problème des retraites d'un côté, celui de l'éducation et de la santé de l'autre. Là, notre discussion montre que les choses sont corrélées. Et puis, la question du rapport au vivant. Effectivement, le rêve néolibéral, hein, Nicolas Bouzou l'exprimait très bien, le rêve du néolibéralisme, c'est un monde dans lequel on serait tellement heureux de travailler à ce rythme, etc., qu'on ne souhaiterait jamais prendre sa retraite.
Rêvons d'un monde où l'on travaille jusqu'à la mort, car le travail fait reculer à la mort, disait Nicolas Bouzou dans un ouvrage de 2017 aux éditions de l'Observatoire.
Voilà. Et pourquoi pas, après tout, je veux dire, on aurait pu me dire ça il y a 15-20 ans, peut-être que j'aurais trouvé ça très bien. Sauf que la réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de comprendre que la vie suppose un certain nombre de limites, d'une diversité de rythmes, qu'il y a que nos écosystèmes ont des ressources qui ont leurs propres exigences, mais aussi nos psychismes, nos corps. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à un moment social où, en fait, non seulement, comme le disait l'un de vos invités, la conscience de l'explosion des inégalités en fin de vie est en train d'apparaître, hein, sur l'espérance de vie en bonne santé, par exemple, ça a été rappelé par votre invité, mais aussi une grande inquiétude monte sur l'augmentation des risques psychosociaux dans tous les métiers, y compris dans les classes dites privilégiées ou classes supérieures. L'augmentation des risques psychosociaux, tout le monde voit très bien de quoi je parle, hein, l'augmentation des burn-out, les dépressions,
les suicides,
etc. Mais encore, l'idée que nous avons gagné en espérance de vie, mais que, comme nous le disent tous les grands rapports internationaux sur la santé dans le monde, nous avons un environnement industriel tellement dégradé sur le plan de l'alimentation, de la qualité de l'air et des rythmes de travail, etc., que nous devons nous attendre à une explosion des maladies chroniques. Donc, si vous voulez, tout ça s'inscrivant bien sûr dans le contexte de la crise écologique.
Bien sûr.
Donc, ce que je crois, pour vous répondre sur la question du courage ou de la peur très brièvement, c'est qu'effectivement, il y a une très grande peur du lendemain, et comme il y a une très grande peur de la fin du monde et de l'effondrement des écosystèmes, mais il y a aussi un courage nouveau. C'est pas tellement que j'appelle au courage, peut-être que oui, j'appelle au courage, mais c'est surtout que je vois que si les gens se mobilisent, c'est parce qu'ils sont en train de se dire que ce qui était présenté comme la fin de l'histoire, le sens de l'histoire, comme quelque chose à quoi il fallait s'adapter, eh bien les gens dorénavant, ils disent « Non, nous sommes convaincus que ce n'est pas la bonne direction ». Et s'ils ont peur, ils ont aussi beaucoup de courage, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils se mobilisent avec autant de courage, parce qu'il en faut, hein, pour se battre l'hiver dans la rue, quand on est un hospitalier, quand on est un étudiant précaire, quand on est un chercheur harassé par les appels à projets. Je veux dire, il faut du courage pour se mobiliser.
Pierre-Yves Geoffard, qu'est-ce que vous pensez?
Je sais ce que ça veut dire, c'est épuisant.
Donc, attendez, laissez la parole, s'il vous plaît. Merci, Barbara Stiegler. Pierre-Yves Geoffard.
Oui, c'est... Alors, il faut voir, il y a un autre élément quand même dont on parle pas beaucoup, c'est pour l'instant, c'est l'attitude de la CFDT. Hein, la CFDT est un syndicat très engagé dans la réforme, dans les discussions, dans la négociation, qui pour l'instant attend de voir. C'est quand même un syndicat qui progresse régulièrement aux élections professionnelles, qui est devenu depuis un an le premier syndicat de France et qui n'est pas le syndicat qui a gagné, on va dire, le mouvement de 95.
Non.
Là, il y a
un
d'ailleurs
sur
un
très
jeu également qui se joue entre les syndicats réformistes et les syndicats qui sont sur un autre agenda. On va voir qui gagne. Hein. Dans un cas comme dans l'autre, pour revenir aussi à un élément qui était évoqué au départ, c'est vrai que la vie syndicale au quotidien est également, on a oublié de citer ça, mais également très très nourri par les jeunes retraités au quotidien qui apportent une aide déterminante à la vie syndicale.
Michel Pigenet, je sais qu'il faut jamais demander à un historien ce qu'il pense de l'avenir et surtout pas de ce qui va être dit par le Premier ministre après-demain, mais néanmoins, vous nous avez dit les prémices, c'est-à-dire ce sur quoi vous disiez tout compte fait, ça n'est pas 1995 ce que nous connaissons. Est-ce que vous voyez cette peur du lendemain enfler encore un peu plus dans la société française et justement nourrir les troupes de ceux et de celles qui descendent dans la rue?
Écoutez, le sentiment n'est jamais quelque chose de complètement irréel et donc ce qui est ressenti par beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas écoutés. Je crois que la crise que nous traversons du politique, elle est aussi ça. Et ils ne sont pas écoutés ni représentés. Et l'année dernière, les Gilets jaunes l'ont dit à leur manière. Et là, l'espèce de clivage qui se fait montre aussi qu'il n'y a pas de dialogue pour le moment. Il n'y a de négociation. Parce que concerter et écouter, ça n'est pas négocier. Et avec qui va-t-on négocier? Avec ceux qui ne font pas grève? Ça risque d'être un peu acrobatique.
Eh bien, merci en tous les cas. On va observer cela, évidemment, toute cette semaine, parce que je pense que ça sera une semaine importante. On reviendra sur la question du rôle de l'État, par exemple, cette semaine, et de la croyance en la parole de l'État, qui sera effectivement une croyance importante. Est-ce qu'on peut faire confiance en la parole de l'État? Ça sera une des questions qu'on posera dans notre semaine du temps du débat. Merci à vous, Michel Pigenet. Je rappelle que vous avez donné une interview pour le site de France Culture sur les idées claires, justement, sur ces questions des réformes des retraites. Barbara Stiegler, on peut trouver votre texte, il faut donc sur le site d'AOC, justement, un texte qui résume ce que vous avez dit aujourd'hui au micro du temps du débat. Et Pierre-Yves Geoffard, votre tribune dans Libération, c'est déjà sur le site de Libération, et ça sera demain dans le journal papier. Le temps du débat, c'est Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Louise André. Aujourd'hui, la technique, Louis Bardinet. Et à la réalisation, Alexandre Manzanares.